Alors, c'est un texte, un récit qui se passe après qu'on ait marché pendant des heures. Il fait chaud. C'est peut-être un petit peu comme sur le chemin de Compostelle. Le voyage a été fatigant. Et donc, je vous propose de revisiter le récit de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. On l'appelle ainsi parce qu'on n'a pas son nom. Jean, l'auteur de l'Évangile, ne nous donne pas son nom. Alors ça, c'était pas la femme samaritaine. C'est un jour, comme disait Jean-Marc, comme pendant les vacances, donc on a beaucoup de techniciens qui ne sont pas là, et ça se sent. Bon, après, si le PowerPoint ne marche pas, ben, on fera sans. Hein. Bon, ben voilà, on a déjà tout vu. Ok, merci. Alors, c'est un récit très riche. Beaucoup de choses sont dites en peu de mots. Jean a écrit des choses vraiment très denses. Et donc, on ne va pas pouvoir parler de tout. Il y aura peut-être des frustrations. Le plus souvent, on se mettra à la place de la femme et se poser la question, qu'est-ce que cela signifie, rencontrer Jésus? Mais parfois, on se mettra aussi à la place de Jésus, surtout au début, parce que en tant que chrétien, il est notre modèle. Et donc, on a des choses à apprendre de lui. Alors, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle.
« S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. »
Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama.
« Comment, tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis Samaritaine ?»
Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit.
« Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »
« Mais, maître, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. »
« Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici.
Va chercher ton mari et reviens ici.
Je ne suis pas mariée.
Tu as raison de dire « je ne suis pas mariée ». En fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. « Ce que tu as dit là est vrai. »
« Maître, je le vois, tu es un prophète. »
Merci. On lira des extraits de la suite un peu plus tard. Alors la femme n'est pas venue dans une église parce qu'on l'a invitée. Elle ne vient pas chercher une réponse à ses questions existentielles. Elle est en plein dans sa vie quotidienne. Elle vient chercher l'eau dont elle a besoin comme tous les jours. Sa vie n'est pas simple, elle a été mariée 5 fois. Il y a eu donc divorce ou veuvage ou les deux. et actuellement elle vit en concubinage. Pour éviter les remarques, elle ne vient pas au même moment que tout le monde. Elle ne vient pas puiser de l'eau le soir ou le matin quand il fait plus frais, mais au milieu de la journée quand il fait le plus chaud. Et probablement que c'est pour rencontrer personne. Aujourd'hui, quand elle vient, elle voit quelqu'un assis au bord du puits. Mais bon, c'est un étranger, il ne connaît rien de sa vie, et puis c'est un juif, et comme les juifs ne parlent pas aux samaritains, elle est tranquille. Et tout d'un coup, elle entend « Donne-moi à boire ». Elle est surprise. « Comment, tu es juif et tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» Jésus ne respecte pas les conventions sociales habituelles, c'est une première surprise. Une deuxième surprise, c'est que dans la suite du dialogue, Jésus a des prétentions inhabituelles. En effet, il affirme connaître des choses sur Dieu, il affirme être quelqu'un de spécial et que cela la concerne. Il lui dit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. » Et plus loin, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jésus lui dit, c'est comme si Jésus lui disait « J'ai quelque chose pour toi de la part de Dieu, quelque chose que tu ne connais pas et qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce que j'ai à te donner répond à tous tes besoins, tu n'en manqueras jamais. Tu n'en manqueras jamais et cela continuera dans la vie d'après. » Et la femme a compris ce message de Jésus, soit en partie, soit en totalité. En tout cas, elle a bien saisi la prétention de Jésus à être quelqu'un de spécial, puisqu'elle cherche à le remettre à sa place. « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob qui a construit ce puits. » Maintenant, en ce qui concerne le fond du message, la nature de ce que Jésus offre, ceux qui ont beaucoup réfléchi sur ce texte sont partagés. Soit elle l'a compris, soit elle ne l'a pas compris. Certains pensent qu'elle n'a pas compris ce que Jésus lui offre, la vie éternelle, l'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et du coup, elle lui répond « Tu n'as pas de seau, le puits est profond. » Et quand plus tard elle dira « Donne-moi de cette eau-là pour que j'ai plus soif et que j'ai plus besoin de venir ici », ces gens pensent qu'elle montre à ce moment-là une vraie soif spirituelle. Il y a une autre option, il y a des gens qui pensent qu'elle a très bien compris ce que Jésus veut dire, donc l'offre de salut, de parler de la part de Dieu, mais en fait qu'elle le prend un peu pour un doux illuminé, excusez-moi l'expression, et qu'elle refuse son offre au départ. Jusqu'au verset 17, jusqu'à ce que Jésus montre qu'il sait des choses cachées sur elle. Et cette deuxième option, elle a pour elle que l'attitude de la femme change au moment où Jésus lui révèle sa vie passée. Et puis ça sera aussi la base de son témoignage. Donc cette femme qui est venue puiser de l'eau au milieu de la journée pour être tranquille est importunée par quelqu'un qui est censé la détester et qui lui parle de la combler de la part de Dieu. Il veut étancher sa soif spirituelle. Par la suite, elle croira en lui, mais là, pour l'instant, il est probable qu'il l'importune. Donc voilà l'attitude de la femme. On peut réfléchir à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait de l'offre de Jésus? Et comment est-ce qu'on reçoit ces paroles? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Est-ce que nous venons à lui pour étancher notre soif spirituelle? Ou est-ce que nous rejetons son offre parce qu'elle ne nous paraît pas adaptée ou stupide ou autre chose? Donc voilà, Jésus est étrange, Jésus intrigue la femme parce qu'il n'est pas comme elle attendait qu'il soit. Il n'est pas comme les juifs qui ne parlent pas. Il lui propose quelque chose de la part de Dieu, il est intrigant, il est étrange. Les Samaritains étaient détestés par les juifs, on l'a dit, pour des raisons ethniques et théologiques. Dans les siècles précédents, des populations avaient été déplacées et les Samaritains étaient les descendants de ces populations déplacées, mélangées avec des gens qui étaient restés dans le pays d'Israël. Et donc, c'est les raisons ethniques pour lesquelles ils étaient détestés par les Juifs. Ils n'étaient pas des Juifs « purs », entre guillemets. Ils étaient détestés aussi à cause de leur théologie. Ils pensaient s'être approprié la foi juive, mais c'était vrai en partie seulement. Ils n'acceptaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament comme parole de Dieu et ils n'adoraient pas au temple à Jérusalem. Donc les Juifs les détestaient et ne voulaient rien avoir en commun avec eux. Alors ça, c'est une carte du pays du temps de Jésus, du pays d'Israël. Alors au sud, en rose clair à peu près, vous pouvez voir la Judée. Un petit bout en rose plus foncé ou presque orange au nord, c'est la Galilée. Et au milieu, vous avez la Samarie. À l'est, vous avez une région en brun qui s'appelle la Pérée, en jaune la Décapole. Alors la plupart des commentateurs, mais pas tous non plus, tous ne disent pas ça, mais il y en a beaucoup qui disent que les Juifs, pour éviter les Samaritains, quand ils devaient passer de la Judée à la Galilée, donc la Judée et la Galilée étaient peuplées par des Juifs, ben ils évitaient la Samarie, et puis ils allaient à l'est du Jourdain, ils passaient par la Pérée pour ne pas passer par la Samarie. Donc Jésus aurait pu prendre ce chemin, mais il a choisi de ne pas le faire, il a choisi de passer par la Samarie. Et moi, ça me pose une question par rapport à mes habitudes de vie, par rapport à nos habitudes de vie. La question que je me pose, c'est est-ce que moi, j'évite des situations, des trajets, des lieux, peut-être des modes de transport, dans le seul but de ne pas rencontrer des gens? Est-ce que dans des décisions apparemment anodines de ma vie, éviter l'autre est un élément de ma prise de décision? Jésus, lui, n'évite pas la Samarie. Il est libre, et il est libre dans le choix du trajet de passer par la Samarie. Jésus est libre, et il est libre aussi de ne pas faire comme ses contemporains. Il est libre dans le fait de parler à une Samaritaine. Jésus est libre dans le fait de parler à une femme. Plus loin dans le texte, il est dit que les disciples sont très étonnés de voir Jésus parler à une femme. Donc Jésus dépasse les conventions de l'époque. On peut se poser la question, par quoi ces conventions étaient motivées? Est-ce que c'était par la volonté d'être plus strict que ce que Dieu demande? Alors c'est vrai que Dieu demande que les conjoints, qu'on respecte le mariage, que les conjoints soient fidèles, mais il coupe pas les conjoints du reste de la société, il coupe pas les hommes et les femmes les uns des autres. Et en fait, quand on veut aller plus loin que ce que Dieu demande, c'est qu'on n'a pas bien compris ce qu'il demande. Donc oui, Jésus parle à une femme qu'il ne connaît pas, même si ça peut choquer. Il ne se sent pas lié par des conventions sociales injustifiées. Il est libre. Jésus est libre aussi dans le fait de demander un service. On utilise souvent ce texte pour souligner l'humanité de notre Sauveur. Il a été un homme comme nous, qui a connu la fatigue, la faim, la soif. Et ici, dans ce texte, de manière très naturelle, il fait part d'un besoin à une personne qui a les capacités d'y répondre. Il a soif, elle a une cruche pour puiser de l'eau, et il se place là en position de dépendance. « Tu as quelque chose que je n'ai pas, tu peux m'aider. » Ça implique de l'humilité et ça valorise la femme. Paul écrira aux Philippiens « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » C'est ce que fait Jésus ici. Alors si on veut imiter Jésus dans ce fait de demander un service pour pouvoir répondre à ses besoins, on peut aussi noter deux choses. C'est qu'il était clair que cette femme pouvait répondre à ce besoin précis parce que Jésus avait soif et parce qu'elle avait une cruche. Et donc, il ne s'agit pas d'attendre de chaque personne que nous croisons qu'elle réponde à tous nos besoins. Ce n'est pas possible. Aussi, dans le fait de demander ce service, on a repéré donc que Jésus est fatigué, qu'il a soif. Mais on peut lire tout le chapitre. Le texte nous dit finalement jamais quand Jésus a bu ni quand il a mangé. Dans la suite du récit, ses besoins légitimes ne restent pas à l'avant de la scène. Il passe au second plan par rapport à ce que Jésus a apporté à ses interlocuteurs. Alors, comme Jésus, que nos besoins ne nous rendent pas égoïstes et n'oublions pas de nous donner nous aussi aux autres, même si nous avons des besoins. Donc, Jésus est libre. Il est libre de reconnaître et de demander un service. Il est libre de ne pas satisfaire ce besoin dans l'immédiat. Il est libre par rapport aux conventions injustifiées de son époque. Il est libre de ne pas prendre un itinéraire qui exclut et qui prive de rencontres. Et à la suite de Jésus, nous, et grâce à son œuvre en nous, nous aussi, nous sommes libres. Mais qu'est-ce que cela signifie, être libre? C'est quoi la liberté? Alors souvent, on pense que la liberté, c'est, on peut définir la liberté comme l'absence de contraintes, la capacité de faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Paul écrit dans une lettre à des chrétiens de Galatie. « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Et selon la Bible, la liberté, ce n'est pas la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Si on reprend l'exemple de Jésus, il était libre, mais comment a-t-il utilisé cette liberté et pourquoi ? Pour faire le bien. Jésus était libre pour aimer. Pour aimer les Samaritains pour ne pas les éviter. Pour aimer cette femme, pour lui parler, pour lui montrer le chemin du salut. Plus tard dans le récit, il sera libre d'aimer les habitants de la ville de Sichar. Et c'est ce que Paul écrit toujours dans ce même verset. « Vous avez été à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Et pour moi, d'après ce que j'ai compris, être libre, selon la Bible, c'est être capable de choisir ce que Dieu a préparé pour nous. Alors comme Jésus, soyons libres d'aimer. Ensuite, on va voir que la femme va être frappée parce que Jésus révèle des choses sur sa vie et qu'elle va penser qu'il est un prophète à partir de ce moment-là. Quand Jésus lui dit « Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari », elle lui dit « Maître, je le vois, tu es un prophète ». En fait, à ce moment-là, Jésus lui fait le cadeau d'un miracle. Jésus connaît sa vie alors que c'est la première fois qu'elle le voit. Et du coup, ses prétentions à être quelqu'un de spécial, dont elle s'est moquée dans un premier temps, ses prétentions sont justifiées. Et à partir de ce moment-là, la femme va adopter un autre comportement vis-à-vis de Jésus. Elle va l'écouter, elle va recevoir ce qu'il va lui dire. Et quant à nous, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons reconnu que Jésus est quelqu'un de spécial. Il est prophète, il veut nous parler de la part de Dieu, le Père. Il est envoyé par lui pour cela. Et comme la femme par la suite, est-ce que nous saurons nous mettre à son écoute? Est-ce que nous savons écouter Jésus? Est-ce que nous recevons ce qu'il veut nous dire? Donc Jésus est prophète, il parle de la part de Dieu. Ce récit nous dit aussi autre chose. Jésus touche là où ça fait mal. Jésus met en lumière ce qu'elle cherchait à cacher aux autres. Il parle ce dont elle ne voulait pas parler. Elle avait une vie compliquée, une vie atypique. Et Jésus touche là où ça fait mal. Alors il touche pas pour détruire, pas pour faire mal. Il touche pour restaurer. Et nous, ne nous cachons pas de lui. Apportons à sa lumière ce que nous cherchons à cacher aux autres. Jésus est le prophète qui sait tout sur nous. Il veut pénétrer au cœur de notre intimité. Ouvrons-lui notre cœur jusqu'en ses recoins les plus intimes. Il les visitera avec douceur pour nous relever. Un point suivant. Cette femme vivait en concubinage au moment où Jésus la rencontre. Elle menait une vie à la fois contraire à la volonté de Dieu et que la société désapprouvait. Jésus dit simplement et objectivement les faits. Il semble qu'il le fasse en douceur, sans colère et en laissant la femme libre de se saisir de ce qu'il vient de dire. Et la femme samaritaine se sent ramenée à ses responsabilités. En effet, elle dira un peu plus tard, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » En fait, elle ne se défausse ni sur ses maris ou son concubin, ni sur son passé. Elle ne remet pas la faute sur les autres, sur les hommes qui ont partagé sa vie, même s'ils ont pu avoir une part de responsabilité dans son parcours. Elle ne cherche pas d'excuses du côté de son passé non plus. Comprendre son passé est une bonne chose Et pour comprendre nos difficultés, les apports de la psychologie sont des outils aidants, je suis la première à le dire. Mais comprendre et se défausser de ses responsabilités, c'est deux choses différentes. Expliquer et excuser, c'est deux choses différentes. Elle ne se cherche pas d'excuses. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle assume ses responsabilités. Et de ce fait, il y aura place pour pardon et repentance, qui sont indispensables à une relation juste et sincère avec Dieu, toute la Bible le dit. Pour moi, il est inconcevable qu'elle ait continué à croire en Dieu et en Jésus sans passer par ces étapes. Cependant, moi je croyais, et je pense que c'est pas juste par rapport à ce texte, moi je croyais que ces étapes devaient obligatoirement toujours se situer au tout début de la vie chrétienne. Or, Jésus va continuer son dialogue avec elle sans qu'il ait été question de repentance et de pardon à ce moment-là. Et il va lui révéler des choses importantes et profondes. Elle va même évangéliser ses voisins et connaissances sans qu'il soit encore question de pardon et de repentance. Alors, le pardon et la repentance sont nécessaires, mais il n'est pas juste de croire à une chronologie de ces différentes étapes qui exclut d'autres chronologies parce que notre Dieu est libre. Alors, je vous propose maintenant de lire la suite, des extraits de la suite du chapitre. On ne va pas lire tout. Et on va voir vraiment maintenant ce que Jésus va enseigner à cette femme.
Maître, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem.
Crois-moi. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ou de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qu'il adore ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité.
Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout.
Je suis le Messie, moi qui te parle.
Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire tout autour d'elle.
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?
Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa encore 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles, et ils disaient à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » La femme a reconnu en Jésus un prophète, et du coup, comme là, elle a quelqu'un, on va dire... quelqu'un sous la main qui s'y connaît dans les choses religieuses, elle en profite pour poser une question qui la taraude depuis longtemps. Et Jésus s'adapte à ses préoccupations du moment, donc sa question c'était « Où est-ce qu'il faut adorer ? Qui a raison ?» Jésus change de sujet, il n'est plus question d'eau vive, il n'est plus question de sa vie à ce moment-là. Elle change de sujet et Jésus la suit. Mais il ne va pas en rester à une simple réponse à sa question, il va lui communiquer à partir de cette question des vérités plus profondes. Et comme elle a une attitude d'écoute, d'ouverture, il va aussi pouvoir lui dire des choses que peut-être elle n'était pas prête à écouter plus tôt. Alors je m'explique, au début du dialogue, la femme avait dit « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob ». Jésus n'avait rien relevé, mais il y avait là du vrai et du faux. Il est vrai que le puits avait été creusé par Jacob, mais il n'était pas du tout certain que Jacob ait été son ancêtre, en tout cas pas direct, étant donné les déplacements de population qui avaient eu lieu les siècles précédents. Mais à ce moment-là, au début du dialogue, Jésus ne dit rien, il ne commente pas cette phrase, il ne la dissèque pas, ce n'était pas le moment. Il s'est contenté, à ce moment-là, de préciser davantage son offre de salut sous la forme de l'eau vive. Plus tard dans le dialogue, il commente positivement ce qu'elle dit. Quand elle dit qu'elle n'a pas de mari, il répond « ce que tu dis là est vrai ». Donc Jésus s'adapte à chaque moment du dialogue à là où elle en est, à ses préoccupations et à ce qu'elle est prête à entendre ou pas. Et je pense que c'est un beau modèle pour nous aussi dans nos dialogues avec des personnes autres, soit des non-croyants ou soit n'importe qui. Mais dans les dialogues, quand on veut apporter quelque chose de la part de Dieu, d'apprendre à discerner les priorités à chaque moment, à chaque personne, s'attacher à ce qui est important à chaque moment. Donc Jésus est en phase avec cette femme. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, je vous rassure, on ne va pas faire une étude biblique de trois quarts d'heure, hein, ça va être très rapide, c'est juste, ça serait un autre sujet, une autre prédication. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Elle voudrait savoir quel est le bon lieu pour adorer. Alors, il prend en compte la question, mais il explique qu'elle est en train d'être dépassée. Elle pose la question, qui a raison, vous les Juifs ou nous ? Alors, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, le salut vient des Juifs. C'est direct, c'est clair. À ce moment-là, elle peut l'entendre. C'est conforme à toute la parole de Dieu. Dieu a choisi de se révéler au peuple d'Israël, de qui est issu le Messie, le Sauveur du monde. Tout vrai croyant ne peut pas occulter ces faits. Ensuite, il approfondit le sujet. Ce qui compte, c'est la manière d'adorer et pas le lieu. Une manière conforme à ce que Dieu est. Dieu est esprit. C'est pourquoi la place donnée aux formes du culte doit s'effacer devant l'importance du fond. Alors, par rapport à ce qu'il dit ici, comment est-ce qu'on se positionne ? Est-ce qu'on adore ainsi, en esprit et en vérité, par l'esprit, poussé par l'esprit, en toute vérité et transparence, et en n'accordant pas plus d'importance aux formes que ce qu'elles doivent avoir ? Autre marque en passant sur cet enseignement, on peut voir dans cet exemple qu'une théologie approfondie ne s'oppose pas à une foi simple. Jésus donne à cette femme un enseignement profond et solide alors qu'elle est seulement en train de découvrir qui il est. La femme écoute. Il y a peu de dialogue à cet endroit, contrairement au début du récit. Elle n'interrompt pas Jésus. Elle est dans une attitude d'écoute, elle reçoit. Sachons aussi écouter ainsi. Sachons recevoir. Puis à la fin, quand Jésus aborde la vraie manière d'adorer Dieu, la femme lui dit « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Alors là, soit la femme cherche à reprendre la main sur le dialogue, soit, comme pour les disciples d'Emmaüs, il y a comme un feu dans son cœur, et devant la profondeur de ce qu'elle vient d'entendre, elle désire aller plus loin. Ce qui la pousse à exprimer l'attente et l'espérance de la venue du Messie, cet envoyé spécial de Dieu. « Je suis le Messie, moi qui te parle », lui dit Jésus. Jésus se révèle à elle tout simplement et sans ambiguïté. Jésus est le Messie, c'est là le point culminant de ce dialogue et il va déclencher un grand enthousiasme chez la femme et l'accueil de Jésus par l'ensemble de la ville. Elle laisse là sa cruche, les tâches quotidiennes, ce sera pour plus tard. C'est tellement beau, cette foi naissante, qui se propage immédiatement. La rencontre avec Jésus la remplit d'une joie qui la bouleverse complètement. Elle va dans la ville parler à tout le monde, elle qui juste avant fuyait tout le monde. Elle doit partager sa découverte, son enthousiasme, ses questions aussi. Jésus est le Messie. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est une si bonne nouvelle ? À ce moment-là, il n'avait pas encore été crucifié, il n'était pas ressuscité. Et comme la femme ne connaissait pas, par exemple, les écrits d'Ésaïe, elle ne savait probablement rien de son œuvre d'expiation. Et pourtant, l'œuvre d'expiation, c'est le cœur, c'est l'essentiel. Pourquoi cet enthousiasme ? Qu'est-ce qui la remplissait de joie et qui peut nous remplir, nous, de joie à sa suite ? Jésus est le Messie, il n'y en a qu'un. Il est le seul, il est l'unique. Il est prophète, il est le seul qui puisse nous révéler intimement et parfaitement Dieu le Père. Tout l'évangile de Jean est rempli par ce message. Le Messie, c'est celui par lequel le Dieu le Père se fait connaître à nous. On ne peut pas aller à Dieu sans passer par lui. Jésus est le Messie, il veut nous donner de l'eau vive. Il est le seul qui puisse nous donner la vraie vie. Il est le seul qui puisse répondre à tous nos besoins, il est le seul qui puisse nous combler. Jésus est le Messie, il n'y en a qu'un. C'est lui qui a toutes les réponses, C'est lui qui est le chemin. Ensuite, ce sont les habitants de la ville qui rencontrent Jésus. Et après l'avoir écouté pendant 2 jours, ils disent « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ». Eux aussi ont fait une rencontre directe avec lui. Eux aussi ont une confession de foi sur la personne de Jésus. Alors j'aimerais tellement qu'on réalise plus, et moi j'aimerais tellement, moi, réaliser toujours plus que notre foi est avant tout un attachement à Jésus. Alors, j'ai plusieurs activités d'enseignement dans l'Église, donc je suis très convaincue que l'enseignement, c'est important, que notre foi doit avoir un contenu, savoir ce que l'on croit, c'est incontournable. Et c'est aussi très important que notre comportement soit juste. Le comportement juste est une conséquence de la foi. Mais la foi, ce récit nous dit que la foi, c'est avant tout être attaché à la personne de Jésus qui nous révèle le Père par l'Esprit. Et la manière dont Jean présente ce récit avec la femme, avec les habitants de la ville, montre que c'est vraiment là le cœur du message qu'il voulait faire passer, être attaché à la personne de Jésus. Et donc, ayons soif d'être toujours plus attachés à lui. Il est le prophète qui sait tout de nos vies et qui veut nous relever. Il est le Messie unique qui nous révèle le Père et qui comble nos besoins. « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Amen.